La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Il s'agit de la plus grande figure de l'identité mongole, l'empereur Gengis Khan, mort en 1227 dans des circonstances mystérieuses, qui a laissé derrière lui de nombreux secrets, et pendant plusieurs siècles, le lieu même de sa sépulture est resté inconnu. Jusqu'à ce qu'un archéologue français, Pierre-Henri Giscard, entreprenne une expédition en 2015. Après 20 ans de fouilles et de patience, et c'est grâce aux nouvelles technologies qu'il localise le tombeau de l'empereur. Cette aventure scientifique hors du commun fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5. Et c'est le dossier de notre tête au carré dans un instant avec vos questions à mes invités. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui à la une de la science, Axel, la bataille pour le statut de Pluton qui décidément n'en finit pas.
Oui Mathieu, depuis que Pluton a perdu son titre de planète en 2006, certains scientifiques ont un peu de mal à dormir. On entre dans le débat taxonomique dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Irène Menahem.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le secret dévoilé de la tombe de Gengis Khan, c'est donc le dossier dans un instant de l'émission avec mes invités, l'archéologue Pierre-Henri Giscard, la productrice Blanche Guichou et Raphaël Hautefort, spécialiste en imagerie scientifique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, Pierre-Henri Giscard. Est-ce que la plus grande qualité d'un archéologue, ce n'est pas d'abord la patience, parce qu'il vous a fallu quand même beaucoup, beaucoup de temps pour localiser ce tombeau de l'empereur Gengis Khan?
Certes, c'est la patience. Et 20 ans, c'est beaucoup, sans savoir si l'on va aboutir. On m'avait prédit que c'était une chose impossible. Parce que pendant 700 ou 800 ans, la recherche avait été faite à la demande de Saint-Louis, d'abord, qui avait envoyé un ambassadeur, et puis, par la suite, beaucoup d'autres personnes, dont Marco Polo.
Et donc, vous avez relevé le défi
J'ai relevé le défi,
plus tard.
C'est un de mes traits de caractère. Dès qu'on me parle d'impossibilité, je le vois comme une provocation.
Bien, et bien on va discuter effectivement de tout cela avec vous dans un instant, et avec Raphaël Hautefort, hein, qui vous a accompagné, puisque bien finalement, sûr. Sans les drones, sans l'imagerie scientifique, vous n'auriez pas probablement pu localiser ce tombeau, Raphaël Hautefort. Hein.
Effectivement, ce sont ces nouveaux outils qui nous ont permis d'aborder cette prospection d'une nouvelle manière.
Oui, et c'est une autre façon de faire de l'archéologie aussi aujourd'hui. On va en discuter ensemble. Blanche Guichou, cette aventure en Mongolie avait tous les ingrédients d'un bon film pour la productrice que vous êtes. Hein.
Eh bien justement, c'est à la fois une aventure scientifique, une aventure humaine, une aventure culturelle, donc ça ne pouvait pas être... C'est parfait.
Et on va voir ce film ce soir, donc on en discute dans un instant avec les questions des auditeurs sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science, Axel Villard, la longue bataille scientifique autour de Pluton se poursuit.
Oui, l'histoire commence en janvier 1930. L'américain Klein Tombaugh regarde ses plaques photographiques à la recherche d'objets transneptuniens. Il remarque un point qui bouge. Trois mois plus tard, la découverte d'une neuvième planète dans le système solaire est officielle. La belle Pluton vivra jusqu'en 2006.
Et alors, qu'est-ce qui se passe justement en ce moment-là?
Mais il se passe ça.
Petite révolution, l'Union Astronomique Internationale, réunie en ce moment même à Prague, vient doter son statut de planète à Pluton. Ce soir, il n'y a donc plus neuf planètes dans le système solaire, mais huit.
Catastrophe. Pluton devient une planète naine principalement parce qu'elle partage son orbite avec des astéroïdes. Depuis, certains chercheurs tentent régulièrement de la faire réintégrer le club très sélect des planètes. Et c'est le travail de plusieurs Américains publié cette semaine. On le commente avec vous, Olivier Mouzis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Provence. Vous êtes professeur d'astrophysique à l'université d'Aix-Marseille, chercheur au LAM. Alors, est-ce que cette nouvelle tentative américaine pour sauver le soldat Pluton a des chances d'aboutir, selon vous?
En fait, j'ai regardé l'étude et il n'y a aucun fondement scientifique. C'est encore... Là, il n'y a pas de nouveaux faits dynamiques ou physiques relatifs à Pluton. Il s'agit d'une étude qui regarde plutôt les faits passés dans les 200 dernières années où certains corps ont eu des qualificatifs de planètes et qui ont été ensuite corrigés au fil du temps, comme par exemple certaines lunes de Jupiter qui ont été, lorsqu'elles ont été découvertes, on les a qualifiées de planètes. Après, elles ont été rebaptisées. Mais si vous voulez, il n'y a aucun fondement scientifique. La définition d'une planète naine est stricte et ferme, et Pluton on rentre dans cette catégorie. Pluton n'est pas une planète.
Ah oui, vous êtes sévère quand même. Dans, dans cette publication, il n'y a pas de science, quoi, carrément.
Non, c'est de l'histoire des sciences, on va dire. C'est une publication qui est intéressante puisqu'on voit comment on voit l'évolution de la connaissance, c'est-à-dire au départ les lunes qui avaient été découvertes autour d'autres planètes étaient qualifiées de planètes parce que les lunes, ça voulait peut-être pas dire grand-chose à cette époque-là. Aujourd'hui, pour nous, ça veut dire quelque chose de très simple, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas.
Alors, si on veut comprendre un peu, il faut rentrer un peu dans les définitions. Aujourd'hui, depuis 2006, c'est quoi une planète ?
Bon, écoutez, une planète, il y a quelques critères qui sont fondamentaux. Alors tout d'abord, le premier critère que personne n'objectera, il s'agit d'un corps qui est en orbite autour du Soleil, ou d'une étoile éventuellement. Et ensuite, il faut que le corps en lui-même ait une masse suffisante pour qu'il puisse avoir une forme sphérique. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir d'une certaine taille, une certaine masse, la gravité fait en sorte que ça maintienne la cohésion de la matière et donc le corps est sphérique. Ça, c'est le deuxième critère. Ça s'applique à la fois aux planètes comme la Terre, Jupiter, et même des planètes naines comme les Plutons. Ensuite, attention, la différence entre une planète normale, entre guillemets, comme la Terre, et Pluton, c'est ceci. Une planète dite standard, et un troisième critère qui est, cette planète a éliminé tout corps susceptible de se déplacer au voisinage de son orbite. C'est le cas de la Terre, c'est le cas de Mars, c'est le cas de Jupiter. Ce n'est pas le cas de Pluton. Pluton a subi aussi, a subi par exemple les aléas gravitationnels, les effets liés à Neptune, qui est la planète la plus lointaine. Pluton n'a pas non plus balayé son voisinage orbital, puisqu'il existe encore plein de corps de taille analogue, voire plus grande, on n'a pas fini de les découvrir, qui sont complètement identiques à Pluton. Donc vous voyez, Pluton ne rentre pas dans cette dernière catégorie. Par contre, une planète naine comme Pluton ne peut pas être un satellite. Ça, c'est le critère aussi pour les planètes naines.
Oui, c'est ça. C'est le critère qui bloque, c'est d'avoir fait le ménage autour de soi. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi en 2006 pour définir les planètes, ce critère, alors ?
Eh bien, en fait, c'est historique, c'est toujours pareil. Comme vous disiez tout à l'heure, Pluton, c'était le premier corps de la ceinture de Kuiper qui a été découvert dans les années 30. À la fin des années 90, on a commencé à en découvrir d'autres et on s'est aperçu que nombreux corps avaient des tailles analogues et étaient situés dans le voisinage de Pluton, voire plus loin dans le système solaire. On s'est rendu compte que Pluton n'était pas unique. Il y avait toute une population d'objets voisins de Pluton qui ne se voyaient pas mutuellement gravitationnellement et qui étaient au moins de la même taille. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des corps qui sont au moins aussi gros que Pluton.
Alors, Olivier Mouzis, si l'Union Astronomique Internationale s'avère sympa et abandonne ce critère pour prendre celui que proposent ses chercheurs, c'est-à-dire la forme sphérique et le mode de formation, combien d'autres corps pourraient rentrer, j'ai envie de dire, dans le club des planètes ?
Alors, attendez. Alors, si je veux dire, si on suit la proposition qui a été faite dans l'article qui est sorti récemment...
Si on rêve un peu...
Si on rêve un peu, non, c'est même pas du rêve. C'est de la physique. Bon, par exemple, il y a un corps qui est illustre dans la ceinture d'astéroïdes qui s'appelle Cérès, qui est un corps qui est extrêmement intéressant parce qu'il pourrait y avoir un océan interne qui fait 1000 km de taille. Il est sphérique. C'est un de ses plus gros astéroïdes. Et celui-ci pourrait avoir le qualificatif également de planète. Mais ça n'a aucun sens.
Mais parmi ces chercheurs, quand même, il y en a deux, trois qui sont plutôt reconnus. Alan Stern qui a dirigé une mission vers Pluton. Pourquoi est-ce que ces chercheurs s'acharnent dans ce combat sans fondement, selon vous ?
Bon, je me dis que moi-même, si j'avais été porteur d'un projet comme la mission New Horizons, j'aurais peut-être envie que Pluton soit une planète majeure. Donc je mets à sa place.
Ouais, c'est un peu la loose, la planète naine, quand même.
C'est une question d'envie, alors. Ouais.
Disons que je comprends, y a un petit côté... imaginons que la planète Pluton avait été découverte par des Français. Bon, en l'occurrence, là, c'est un Américain. Je pense que bon, les Français sont en train d'essayer de ferrailler pour que Pluton passe au statut de planète. Je veux dire, c'est de bon enfant. Mais bon, les lois de la dynamique sont là. Je pense que la définition d'une planète est suffisamment claire aujourd'hui. Il n'y a pas d'ambiguïté.
Donc ça se résume à ça. Pluton est une découverte américaine, donc les Américains se battent pour que Pluton reste une planète.
Non, c'est même pas au-delà de ça. C'est une question humaine, c'est pas une question d'être américain ou pas ou français, on est dans les sentiments, on est parce que c'est un sujet qui a été découvert par des gens qu'on aimait bien, etc. Donc voilà, c'est humain, c'est tout à fait normal. Enfin,
mais
ça me choque pas.
Si au-delà de ça, Olivier Mouzis, il y a une possibilité au moins que ce soit renégocié ou pas du tout, c'est perdu d'avance, la reclassification.
Écoutez, l'UAI, c'est une instance qui est indépendante, qui est internationale. Donc, je veux dire, est-ce qu'un pays pourrait faire bouger les choses ? J'en doute. Je pense que les définitions sont claires. Vous savez, Pluton n'est pas forcément une planète naine, comme vient de le dire, mais c'est un objet qui est super intéressant. Je vois même pas, l'intérêt de lui accorder le titre de planète. Ça va pas enlever de l'intérêt qu'on a pour cet objet. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes.
Merci beaucoup pour vos explications claires, Olivier Mouzis. Et puis Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des os d'oiseaux géants qui permettent de réécrire l'histoire de Madagascar. Jusqu'à maintenant, les premières traces attestées de l'homme sur la grande île dataient d'il y a environ 3000 ans. Et l'étude de marques de découpe sur des os d'oiseaux éléphants repousse l'arrivée de nos ancêtres 6000 ans en arrière, rien que ça. L'île est connue pour avoir abrité une faune de très grande taille par le passé. Des lémuriens géants, des tortues géantes et autres hippopotames qui auraient donc cohabité avec des hommes pendant plus de 8000 ans. Une surprise, car partout ailleurs dans le monde, l'homme a fait disparaître rapidement les grands animaux lorsqu'il arrivait sur leur territoire. Des centaines de milliers de bactéries électriques dans le ventre. On pensait les bactéries productrices d'électricité recluses au fond des mines ou des lacs, mais on découvre aussi qu'il en existe dans nos intestins. Des chercheurs de Berkeley viennent de découvrir que certaines espèces de bactéries très communes de notre microbiote sont électrogéniques. Elles utilisent de faibles courants électriques pour la même raison que nous-mêmes respirons, pour retirer des électrons des molécules afin de s'en servir comme source d'énergie. L'étude de ces bactéries pourrait permettre d'envisager d'autres modes de production ou de stockage électrique inspiré de ce qui se passe donc dans notre ventre. Et puis le fond des océans, une véritable boîte de nuit, de meilleures caméras et l'abandon de l'éclairage systématique permettent aujourd'hui aux sous-marins de découvrir la véritable nature de quasiment tous les animaux qui y vivent, ces derniers émettant de la lumière sous forme de bioluminescence. Une mission japonaise révèle cette semaine des vers qui clignotent de rose et de bleu, des méduses aux mille couleurs et même des poissons qui éblouissent leur proie à l'aide de flashs bleus. Les chercheurs pensent que la production de lumière est une capacité primordiale chez tous ces animaux pour chasser, se reproduire, se défendre ou même communiquer. Allez, nous partons sur les traces de l'empereur Gengis Khan dans un instant. Et c'était Yellow Days à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
La tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé, donc un film de Cédric Robion diffusé ce soir à 20h50 sur France 5 dans la case Science Grand Format, un film qui raconte l'expédition scientifique qui a donc mené une équipe de chercheurs jusqu'au tombeau de l'empereur Gengis Khan, dont le lieu était resté jusque-là inconnu. Et pour en parler, Pierre-Henri Giscard, vous êtes donc archéologue, directeur scientifique de l'Institut des déserts et des steppes. Blanche Guichou, vous êtes la productrice du film. Et Raphaël Hautefort, vous êtes spécialiste en imagerie scientifique aérienne et souterraine, et on va voir avec vous que les drones ont joué un rôle aussi très important dans cette découverte. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages, toutes les questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Blanche Guichou, première question pour vous. J'aimerais d'abord savoir comment vous, en tant que productrice, vous avez été au courant de cette expédition sur les traces du tombeau de Gengis Khan.
Comme souvent, c'est des rencontres. Je pense par Raphaël qui a fait le lien avec Pierre-Henri Giscard et le réalisateur Cédric Robion. C'est cette rencontre et ces discussions entre eux qui ont fait naître le projet de film et la possibilité de m'y associer. Ouais. Mais au départ, c'était vraiment les premières expéditions de repérage, on va dire, que Pierre-Henri faisait dans le massif et dans lequel il a eu envie d'associer des caméras parce que le sentiment que c'était une histoire exceptionnelle et qu'on allait pouvoir la raconter était présent dans toutes les têtes.
Alors Pierre-Henri Giscard, faisons d'abord connaissance avec vous, archéologue, vous avez travaillé avec Théodore Monod, et donc je le disais, vous êtes le directeur scientifique de l'Institut des déserts et des steppes. Cette tombe inconnue de Gengis Khan pendant des siècles, vous, personnellement, vous avez commencé à vous y intéresser à partir de quand alors?
À partir de 1992, et quand j'ai été envoyé par l'UNESCO, et dans le cadre des routes de la soie, et qui étaient des grands périples faits par des Occidentaux à travers l'Asie, et il y avait de nombreux périples, certains étaient océaniques, d'autres terrestres, et moi j'ai participé aux plus nordiques d'entre eux, qui traversaient la Mongolie. Et à ce moment-là, le gouvernement mongol a demandé à l'UNESCO d'envoyer des spécialistes, dont moi-même, et de fournir des crédits personnaliser et préciser les origines du peuple mongol. Mmh. Et c'est à cette occasion que je me suis intéressé, que j'ai commencé à m'intéresser à la recherche de la tombe de l'empereur.
Ouais. Mais vous étiez seul à vous y intéresser ou il y avait déjà d'autres archéologues qui tentaient désespérément d'essayer de trouver ce tombeau?
En tant que Français, j'étais seul.
Oui.
Mais la ruée vers le tombeau,
oui,
la compétition internationale avait déjà commencé un peu avant 92 par les Japonais,
oui,
qui avaient investi des millions et de dollars avec des hélicoptères, des avions, des troupes terrestres, l'armée, etc.
Ah oui, carrément, oui.
Ah, c'était une chose extraordinaire.
C'était la super production, oui.
Et il y a eu un rapport au bout de 2 ou 3 ans, tout à fait confidentiel, dont Jacques Chirac avait reçu un exemplaire et moi-même un autre, et qui disait, à la fin, ils nous ont blousés. Au moment où notre hélicoptère a atterri sur le sommet de Brocan-Caldoun, ils nous ont dit « Vous voyez bien qu'il n'y a rien à voir ici » et on a redécollé.
Ouais, donc ils ont rebroussé chemin finalement ?
Ils ont rebroussé chemin alors qu'ils avaient participé, ils avaient parcouru un grand nombre de territoires environnants dans tout le nord de la Mongolie parce qu'on ne savait pas où était le Brocan-Caldoun.
Ouais.
On savait bien qu'il y avait le nom, mais à quoi, à quelle montagne correspondait ce nom, on ne le savait pas.
Mmh.
Et ils ont été détournés du but alors qu'ils approchaient au but.
Incroyable.
Et ils l'ont dit dans les dernières lignes de leur rapport.
Aussi près.
C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille.
Ah oui, donc
je me suis dit, ils l'ont pas fait, eh bien, nous, on va le faire.
Oui, puis alors finalement, ils avaient fait un gros boulot aussi
avant. Ben oui. Alors les Américains se sont ensuite jetés là-dessus. Et puis, les Italiens, les Britanniques. J'ai pu participer aux missions italiennes et un temps soit peu aller sur les traces des Britanniques.
Ouais.
Et ce n'est pas rien qu'ils n'aient pas trouvé. Parce que, comme je le dis dans le film, les gens qui échouent nous prouvent au moins
utiles.
Que là, il n'est pas là.
Oui, et c'est très utile, effectivement,
pour la
recherche.
Et ça élimine beaucoup de possibilités.
Ouais,
et peu à peu, en étudiant ensuite les documents anciens, y compris du XIIIe, XIVe siècle, en particulier de l'historien persan, on est arrivé à cerner les possibilités.
Ouais. Alors on va voir justement quels éléments ont pu vous mettre aussi sur la piste de ce lieu. Ouais. Présentez-nous quand même ce jeune homme, Raphaël Hautefort, qui est spécialiste en imagerie scientifique aérienne et souterraine. Comment vous, monsieur Giscard, archéologue, qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir travaillé avec des outils comme les drones, un jour se dit, il faut vraiment que je m'ouvre à cette nouvelle discipline, à cette nouvelle technologie pour avancer aussi sur le terrain?
Je m'y suis intéressé à l'occasion d'une rencontre avec Raphaël Hautefort au musée du Quai Branly. Il a fait un exposé très lumineux avec un de ses collègues sur ses nouvelles possibilités et aussitôt je lui ai proposé de déjeuner et de partir le mois d'après.
Ah oui, dites donc, ça a pas traîné.
Il était très surpris.
Soudain.
Donc il fallait juste mettre tes drones dans les valises.
Exactement.
Les préparer. Ah,
je lui ai demandé, êtes-vous prêt à partir?
Voilà.
Il m'a dit, pas de problème.
Ouais.
Je dis, on y va.
C'est ça.
La première question fut, travaillez-vous à l'étranger?
Oui.
La seconde, est-ce que vous montez à cheval?
Oui.
Est-ce que vous faites de la moto?
Ouais.
Est-ce que vous êtes disponible pour déjeuner?
Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous êtes parti sur le terrain. Mais Gengis Khan, ça s'est évoqué quelque chose de particulier pour vous, sincèrement, avant
très
de partir
peu,
ou pas?
Très peu, puisque, effectivement, ne connaissant pas l'histoire en particulier, en tout cas de la Mongolie, ça m'évoquait, un empereur, un conquérant, sans plus, et j'avais pas idée de vraiment de ce qu'on partait chercher à ce moment-là, en tout cas.
Alors, qu'est-ce que vous apportiez, vous, justement, dans vos bagages, à Pierre-Henri Giscard pour avancer sur le terrain là, et tenter de trouver ce tombeau?
Une nouvelle approche possible. Le principe de mon boulot, c'est d'essayer d'éviter d'utiliser les outils traditionnels qui souvent ont échoué jusque-là, puisque si on en arrive jusqu'à moi, c'est qu'on a un peu creusé dans les derniers retranchements et qu'on n'a pas trouvé quelque chose de pertinent. Donc, mon but, c'est de me rapprocher de la problématique du scientifique et ensuite de voir quels outils sont pertinents pour aller essayer justement de révéler quelque chose que l'on n'a pas pu révéler avec les outils traditionnels. Mmh. En l'occurrence, les drones, puisque là-bas, il y avait cette contrainte de ne pas fouiller. Ne pas fouiller voulait dire il fallait télédétecter, donc détecter sans toucher.
Ouais.
Et donc, les drones étaient l'outil, me semblait-il, à ce moment-là, le plus pertinent.
Donc là, Pierre-Henri Giscard, c'était vraiment de l'archéologie absolument non-invasive. Hein. Il était hors de question de procéder à des fouilles sur les montagnes que vous alliez chercher. Hein.
Le reste de mon temps, je faisais de l'archéologie, c'est-à-dire de la fouille de tombes ou de ruines. Mais il n'en était pas question, en ce sens que ce que l'on a fait là ensemble, ça relevait non pas tellement de l'archéologie stricto sensu, mais d'un rôle d'exploration. Je suis membre de la Société des explorateurs français depuis une trentaine d'années et j'ai l'habitude de parcourir des territoires inconnus. Et donc exploration et un rôle plus ou moins de détective. Lorsqu'il s'agit de résoudre une énigme.
C'est ça.
Et là, c'était une grande énigme puisqu'elle avait 800 ans d'ancienneté.
C'est ça, absolument. Alors, vous le disiez tout à l'heure, l'étude des textes aussi a été prépondérante dans l'avancée, justement,
absolument,
de votre enquête.
L'étude des textes anciens et également l'étude de textes récents datant de 50, 60 ans, dans lequel des scientifiques occidentaux ont repris le problème, en particulier un certain Paul Pelliot au début du XXe siècle, et puis le fameux Igor de Rachevitz, qui vivait, il est mort il y a 2 ans, qui vivait à Melbourne, en Australie, et qui était un grand, grand expert. Et lui-même, par téléphone ou par mail, a pu me donner des renseignements très précis et confidentiels sur ce que l'on pouvait chercher.
On va écouter justement un premier extrait de ce documentaire, La tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé, où il y est question d'une rivière détournée.
Les véhicules pénètrent enfin à l'intérieur du sanctuaire. L'équipe n'a pu négocier que 4 jours de présence sur place. Une véritable course contre la montre est désormais enclenchée. La mission s'enfonce dans l'un des territoires les plus hostiles de la planète.
Sur l'aspect que pourrait avoir la tombe de Gengis Khan, les informations sont concordantes. La tombe était très soigneusement camouflée. L'une des légendes développées autour de la tombe de Genghis Khan veut qu'une rivière ait été détournée pour achever en quelque sorte de la faire disparaître.
La première mission pour les scientifiques consiste à vérifier les fondements de cette légende.
Là, en étant au milieu, on voit très bien les berges se dessiner. Il y a une rupture dans la topographie. On voit cette pente bien nette qui ondule, qui marque en fait l'ancien lit de la rivière.
La modélisation confirme l'étrange effet de canalisation du cours d'eau qui tranche avec sa sinuosité naturelle observée dans le reste de la vallée. Encore plus intéressant, la rivière semble effectivement avoir été détournée en amont de ce canal, ce qui donne corps à la légende. Pourquoi en effet détourner une rivière dans une région totalement isolée depuis le Moyen-Âge ?
Alors, un élément, hein, un indice très important, Pierre-Henri Giscard, parce que justement, le détournement de cette rivière, ça indique quelque chose, hein, parce que la main de l'homme est passée par là, et donc, c'était une façon d'avancer vers cette montagne que vous recherchiez quand même. Hein.
Absolument, et à partir des documents anciens. Et donc, il était peu probable qu'on ait détourné une rivière pour une raison moindre qu'un site gigantesque à protéger. On ne fait pas un travail de cet ordre, qui nécessite quand même des centaines d'ouvriers, voire des milliers, ouais. Je n'en sais rien, hein, pour permettre à des éleveurs, par exemple, d'avoir de l'eau pour les troupeaux, etc. Ouais. Et donc, déjà, cette confirmation de ce que disaient les textes anciens, nous conforter dans notre recherche.
Ouais,
donc je précise d'ailleurs que ça a été fait non pas par un drone, mais par une aile volante dont disposait également Raphaël Hautefort.
Ouais, alors quelle est la différence, Raphaël Hautefort, du point de vue de la technologie là ?
Alors disons qu'on en a un qui vole comme un avion, donc il ne fait pas de vol stationnaire et il nous sert à prospecter de grandes zones. Autant le drone qui est le petit hélicoptère que l'on a coutume de voir un petit peu partout, lui, il a plutôt vocation à rester stationnaire ou en tout cas aller chercher des images au-dessus d'un point en particulier, très particulier. L'aile volante, elle, donc c'est aussi un drone, mais qui est préprogrammé pour voler. On lui intègre un plan de vol, il s'en va, il fait le parcours qu'on lui donne à faire, et ensuite, après avoir traité les images, on va pouvoir obtenir une cartographie extrêmement précise d'une zone qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres carrés.
C'est ça, donc là, il s'agit de quadriller cette zone pour trouver tous les indices pouvant mener aussi à une information nouvelle. Hein.
Exactement, parce que souvent, en fait, ce qui nous manque, c'est le contexte, et ce qui a été le cas dans la recherche de Pierre-Henri Giscard, c'était bien le contexte toujours qui nous faisait défaut, c'est qu'on pouvait observer des toutes petites parties de ce que l'on cherchait où était éventuellement présente une preuve. Mais il y en avait peut-être une autre à côté qui, elle, venait corroborer cette première preuve. Et ce qui nous manquait, c'était systématiquement le contexte. Donc changer d'échelle. L'échelle satellitaire était trop vaste pour nous, pas assez définie. La bonne échelle, c'était celle-ci, en tout cas, pour le point particulier du détournement de la rivière.
Allez, nous arrivons ensemble peu à peu sur la piste du tombeau de l'empereur Gengis Khan. C'est le dossier de la tête au carré cet après-midi.
Tout ce que tu touches,
cette touche,
tout ce que tu vois,
un écran plat,
tout ce que tu sens.
Soleil, ton air, le vent,
tout ce que tu approches, les structures, les sons, les formes, les ombres, les êtres, les nombres, doute, doute, doute,
tu doutes,
doute, 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 tout ce que tu beau refrain. Doute, 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 doute.
Tu doutes.
Doute, doute, doute. Thank you. l'illusion des beaux rêves qui dansent.
Extrait de son dernier album, Barbara Carlotti avec Bertrand Burgala et Tout ce que tu touches.
La tête au carré sur France Inter.
La tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé ce soir, Science Grand Format, 20h50 sur France 5 pour découvrir donc cette mission, cette double mission archéologique avec Pierre-Henri Giscard, Blanche Guichou, Raphaël Hautefort, mes invités cet après-midi pour en parler. Blanche Guichou, vous qui produisez ce film, c'est pas facile de faire des images hein, sur une expédition scientifique parce qu'il faut créer de l'enjeu, il faut mettre un peu de suspense, de tension pour maintenir en haleine le téléspectateur. Comment vous avez justement construit là ce documentaire précisément?
Alors ça, c'est le talent de Cédric Robion, qui est le réalisateur, c'est d'arriver à prendre du travail scientifique extrêmement rigoureux et d'arriver à raconter une histoire avec ça. Et on avait déjà d'ailleurs fait un film précédent ensemble en Mongolie, qui était un vrai film d'archéologie, on ouvrait une tombe. Et là, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir montrer pour faire toucher
cette aventure
du doigt. Et je dois dire que le travail fait par Raphaël, y a bien sûr le personnage de Pierre-Henri et sa quête et la façon très vivante dont il nous la raconte, mais le travail fait par Raphaël nous a permis de modéliser par exemple un massif.
Ouais.
Et tout ce qu'on raconte là, c'est un peu abstrait. Simplement, quand on arrive à utiliser les données collectées par Raphaël et à remodéliser, c'est-à-dire à dire, voilà, le massif, si vous étiez un avion ou un oiseau, un avion très près ou un oiseau, voilà ce que vous verriez.
Et on peut même voir à l'intérieur. L'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur.
Et on peut déceler justement les anomalies, les choses un peu étranges, des figures très géométriques dont on se demande comment elles sont venues se poser là au milieu d'un massif. Donc ça, c'est vraiment une grande chance. Bon, après, il y a aussi les paysages de la Mongolie, il y a l'aventure de détective dont Pierre-Henri parlait tout à l'heure. Mais vraiment, la capacité de ces nouvelles technologies à permettre de faire des images qui ne sont pas des images imaginées ou recréées par l'univers artistique d'un réalisateur, mais qui sont ça, mais vraiment basées sur des mesures scientifiques, des observations très précises, ça, c'est vraiment fabuleux.
Alors justement, Raphaël Hautefort, on va entendre un extrait dans un instant d'une discussion entre vous et Tara Bezin, qui est géo-archéologue à la Sorbonne, parce que le travail, ça a aussi été un aller-retour entre la Mongolie et Paris pour, une fois les images récoltées, pouvoir les interpréter aussi au mieux avec les spécialistes de la question. Hein.
Absolument. Un des premiers enjeux, c'est de savoir ce qu'on cherche pour savoir, pour pouvoir étalonner l'outil. En se disant, voilà ce que je cherche, voilà quelle échelle il a, voilà ce que je vais essayer de déployer et tester la méthode. On a souvent besoin de l'éprouver avant de pouvoir vraiment la mettre en œuvre. Cette première mission en Mongolie, clairement, elle est un échec au niveau du résultat immédiat. Elle est une réussite en termes d'étalonnage de l'outil.
Oui.
Puisque cette discussion, c'est justement, qu'a-t-on besoin de plus pour pouvoir vraiment tirer une information pertinente et scientifique de ces images.
Et savoir si vous êtes sur la bonne montagne où se trouverait le tombeau de l'empereur.
Parce que c'est toujours l'enjeu.
Oui, bien évidemment. Sûr, c'est l'enjeu. Alors, on va écouter justement cet échange. À l'issue de la première expédition, Tara Bezin discute avec vous des images.
Malgré le crash du drone, une modélisation partielle du sommet a pu être calculée. Tara Bezin, une géoarchéologue de renom, analyse cette forme. Va-t-elle parvenir à déterminer si le dôme est naturel ou s'il a été construit ?
Il fait 250 mètres de long. Sur 250 mètres, avoir une géométrie, j'allais dire, si parfaite, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez troublant.
La forme en soi, ça va pas nous apporter beaucoup d'éléments discriminants pour dire si c'est un relief anthropique ou naturel.
On peut observer là deux phénomènes qui sont assez étranges, parce qu'on a deux cercles parfaits qui se distinguent et qui sont, encore une fois, quasi invisibles à l'œil nu. Ils sont vraiment apparus au thermique. En tout cas, ça laisse penser à un agencement.
Effectivement, sur de la surface de cercle comme ça qui réagissent au thermique, c'est pas naturel. Déjà parce qu'on est en pente, Donc normalement, par appel au vide, les cailloux vont se redistribuer en pieds de versant et ils vont pas avoir tendance à s'organiser en cercle. Donc ça, oui, c'est quelque chose d'agencé.
D'accord.
Et voilà donc, Pierre-Henri Giscard, un nouvel indice. Hein. Après la rivière détournée, le dôme anthropique, c'est-à-dire que c'est la main de l'homme qui aurait créé ce dôme. Et là aussi, on va pas comme ça inventer un dôme pour le plaisir. Hein. Il y a des raisons particulières.
Évidemment, évidemment. D'autant plus que ce site-là est très loin de toute zone habitée. Et donc, il a fallu des milliers de personnes qui étaient probablement des esclaves chinois ou des prisonniers de guerre chinois, et qu'on a amenés là pendant des mois et des mois, certainement, plusieurs milliers, et il a fallu les nourrir et les abreuver. Les abreuver, il y avait de l'eau en bas, la fameuse rivière, mais les nourrir. Même si on leur donnait le peu, il fallait quand même qu'ils survivent, puisque le travail restait à faire. Donc, c'était gigantesque, cette opération. C'était du type pharaonique.
Oui.
Et c'était une preuve quand même que, selon toute probabilité, l'enjeu en valait la chandelle, comme on dit.
Alors, qui était Gengis Khan, quand même? Est-ce qu'on pourrait un petit peu les présenter? Cet empereur mongol, on le disait, qui a marqué évidemment la population mongole. Pour quelle raison? Alors, parce qu'il était à la fois visionnaire, mais totalement sanguinaire quand même. Hein,
c'est un homme qui est parti de rien. Sa petite tribu avait été battu par ses ennemis, lui-même, son père avait été massacré justement par les ennemis. Il est parti quasi de rien. Et il a vécu tout petit en mangeant des oignons sauvages sur le sommet de Burkhangaldul.
Donc au XIIe siècle.
Au XIIe siècle. Il est mort en 1227. Il est mort à l'âge de 71 ans, ça on le sait. Et vous pouvez faire le calcul vous-même de sa date de naissance. De toute façon, personne ne la connaît.
Oui.
Donc, et peu à peu, à travers des épisodes extraordinaires qui sont racontés brillamment et par nos deux experts qui sont interviewés dans le film, eh bien, il en est arrivé à être le fondateur d'un empire qui a été le plus vaste du monde, 3 ou 4 fois celui d'Alexandre. Donc, qui allait depuis la Corée jusqu'aux frontières de l'Europe.
Ouais. Alors, vous le disiez, Pierre-Henri Giscard, donc il a passé son enfance autour de cette montagne, la Burkhangaldul, c'est ça?
Oui.
Et c'est précisément cette montagne dont nous parlons là, avec les images et ce dôme qui aurait été quand même réaménagé par les hommes.
Hein. Le livre de l'histoire secrète des Mongols, qui a été traduit en français d'ailleurs, parle de ces années très dur de son enfance dans cette montagne où il se cachait ses ennemis, mais on ne savait pas jusqu'à maintenant où était cette montagne.
Ouais.
Et c'était le Graal, le challenge de trouver à quoi correspondait.
Ce qu'on savait, c'est que dans la tradition mongole, on enterre justement ce type de personnalité dans le lieu de sa naissance, ou de son enfance en tout cas. Hein.
Il était né tout près.
Ouais.
Donc l'endroit où il était né était très plat au bord du fleuve Onon, donc ça ne pouvait pas être là, d'autant plus que la tradition c'est d'enterrer à mi-hauteur ou à 2/3 de la hauteur d'une montagne et dans direction du sud.
Ouais.
Or, l'endroit où nous avons cherché était bien à 2/3 de hauteur de la montagne et en direction du sud.
Raphaël Hautefort, après cette discussion tout à l'heure avec la géoarchéologue, donc vous décidez de retourner en Mongolie, parce qu'évidemment là vous êtes un peu sur votre faim quand même, il y a beaucoup d'incertitudes, et il faut aller confirmer, retourner sur place.
Alors, plus que de l'incertitude, à vrai dire, moi je suis intimement convaincu, quasiment à ce moment-là, que le dôme n'est pas anthropique. Les images, il y a quelques indices. Évidemment, je la pousse dans ses retranchements en lui demandant est-ce que la forme, c'est quand même bizarre.
Oui.
Mais finalement, non. Mais ces cercles, les fameux cercles, qui eux sont ressortis avec un autre type d'imagerie, l'imagerie thermique, eux nous ramènent sur la piste de Burkhangaldul à nouveau et sur ce dôme à nouveau. Donc oui, il faut y retourner. Et cette fois-ci, évidemment, l'enjeu est de pouvoir, à la différence de la première mission où les conditions climatiques et le temps qu'on a pu passer en haut nous ont pas permis d'exploiter correctement les machines. Mais cette fois-ci, on sait exactement ce que l'on doit trouver, à quelle résolution, quelle altitude on doit travailler et quel résultat on escompte. C'est-à-dire ressortir la géométrie de ce dôme et connaître sa structure.
Oui.
Est-il, semble-t-il, naturel ou pas? Déjà, il ne ressemble pas à quelque chose de naturel, ça c'est ce qu'on va chercher. Il faut l'attester, et ensuite, de quoi est-il fait? Quelle est sa structure interne?
À quelle altitude vous êtes d'ailleurs, au sommet du dôme à peu près?
On est à une... Alors nous, on est à 2500 mètres à peu près.
Oui, oui, à peine.
Si je ne dis pas de bêtises, ça dépend si on est au pied du dôme ou au-dessus. Mm-hmm. Oui. Et nous, on a volé à peu près 100 mètres au-dessus. pour obtenir en fait une modélisation de ce dôme à 2 cm, c'est-à-dire qu'on est capable d'observer chaque pierre avec une résolution de 2 cm. Donc c'est une résolution extrêmement fine.
Allez, les choses se précisent évidemment, l'expédition avance et nous en parlons dans la dernière partie de cette tête au carré dans un instant.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi, font 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 les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tactique attaque, tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Jimmy J.
Victime de la mode, MC Solar à l'instant.
La tête au carré.
Le camp de base est installé au même emplacement, quasiment un an jour pour jour après l'avoir quitté.
Pierre-Henri, tu peux venir voir? Alors là, on voit qu'on a une différence manifeste de structure du sol, enfin de réponse électromagnétique.
On parle des anomalies de surface, là.
Là, on est entre 0, en plutôt, on est entre 1 et 3 mètres.
1 et 3 mètres, bon.
Et ici,
c'est
on a quelque
pierres,
chose.
Des cailloux, des.
Ça, des choses, ce serait plutôt des cavités.
Cette découverte renforce la conviction des scientifiques qu'ils se rapprochent chaque fois un peu plus de leur objectif, la tombe de Gengis Khan.
Que pouvait-elle contenir à part le corps du conquérant? Certainement un mobilier funéraire d'une très grande richesse. Et puis, d'autres corps. Nous savons par exemple que Gedei, le premier successeur de Chinggis Khan, 2 ans après sa mort, a fait sacrifier 40 jeunes filles sur la tombe de son prédécesseur. Il est peu vraisemblable que l'on ait rouvert la tombe pour les y déposer, d'ailleurs aucun emplacement n'était prévu probablement pour cela à l'origine, et on peut donc imaginer des enterrements à proximité de la tombe principale.
T'as vu au milieu?
Oui.
T'as vu le milieu?
Là, c'est beaucoup plus sombre.
Ah putain.
Là on a un truc.
Les 40 femmes vierges. Évidemment, évidemment.
Voilà, Pierre Giscard, ça a été un choc apparemment pour vous, cette découverte.
C'était un choc,
ouais.
Parce que je savais d'après les documents anciens qu'il y avait eu consécutivement à l'enterrement de l'empereur au moins 3 massacres, et donc 3 charniers, évidemment qu'on emportait par les corps ailleurs. Donc ces 3 charniers, c'était premièrement celui des ensevelisseurs, qui étaient sans doute des constructeurs du tombeau, du dôme en terre, qui étaient certainement des Chinois. Le deuxième, ça a été le massacre des massacreurs. Des massacreurs qui ne s'attendaient pas à ça, mais ils ont été massacrés. On sait à peu près l'endroit où où il se trouvait. Et le troisième, c'est 2 ans après la mort de l'empereur, son fils, comme il a été dit, Ogodei, qui était son successeur, qui a demandé que l'on amène 40 jeunes filles vierges de la haute société mongole et qu'on les massacre sur place pour servir l'empereur dans l'au-delà.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et je pense que c'est celui-là, le troisième, puisque grâce aux travaux de Raphaël Hautefort, il a fait apparaître à 3 mètres environ du sol des espaces de 2 mètres en 2 mètres et d'une longueur de 2 mètres également, en place de corps humains, avec surtout qui étaient parés de matériaux métalliques ferreux.
C'est ce qui a été repéré d'ailleurs, hein, Raphaël Hautefort. Hein.
Le non ferreux, c'est soit de l'or, soit de l'argent, soit du bronze. Et c'est tout. Donc, ces ceintures ou ces parures d'objets précieux ne peuvent concerner que le troisième massacre. Mmh. Il est évident qu'on donnait pas, les Chinois n'avaient pas tout ça.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe au moment de la deuxième expédition, d'ailleurs, Raphaël Hautefort? Parce que vous arrivez là-bas et vous voyez que le lieu est quand même très particulier et qu'il est toujours l'objet d'un culte très fort en Mongolie. Hein.
Absolument, c'est un élément non scientifique, mais on peut observer qu'il y a une activité et qu'il y a un véritable culte qui y est voué. Il y a des éléments aussi qui sont sur ce dôme qu'on n'a peut-être pas pu observer la première année, encore une fois dû aux conditions météo. Il faut savoir que ce dôme, moi je ne l'ai pas vu la première année en entier. Il était toujours dans la brume, partiellement sous la pluie ou dans les nuages. Donc c'était extrêmement compliqué de voir et même de pouvoir analyser. Et là tout à coup, à la fois au pied et à la fois sur ce dôme, on se rend compte qu'il y a des choses qui évoluent. Il est encore vivant, en tout cas, il est encore utilisé comme lieu de culte et actif.
Ouais. Alors justement, est-ce que c'est facile de travailler dans un lieu comme celui-là, sur une montagne sacrée qui a autant d'importance pour le peuple mongol et qui touche cet empereur, Gengis Khan?
Facile, non, puisque on sait qu'on est dans un endroit qui est sensible et donc il faut y apporter toute la mesure. C'est-à-dire chaque geste qui va être pratiqué sur cette montagne a une importance et peut avoir des conséquences. Donc on doit mesurer tous nos gestes.
Ouais.
Donc c'est pas évident puisqu'on doit utiliser nos outils avec parcimonie. On ne peut pas les utiliser et les pousser dans leur dernier retranchement.
Et là encore une fois, on reprécise, Pierre Giscard, hors de question, pardon, de mener des fouilles directement là, hein, même si on a envie.
Absolument. Ça n'avait jamais été envisagé. Le président de l'Académie des sciences de l'époque, qui était un ami, qui m'avait d'ailleurs donné la médaille d'or de l'Académie des sciences pour les découvertes faites en archéologie, et m'avait dit. Vous pouvez y aller, regarder, faites tout ce que vous voulez, sauf fouiller. Fouiller, c'est-à-dire prendre des pelles, des pioches, des truelles, etc., comme on fait dans l'archéologie classique.
Donc, ce qui doit être très frustrant aussi quand même pour vous, j'imagine.
Moi je suis habitué, en tant qu'explorateur aussi, membre de la Société des explorateurs français, d'aller dans certains pays où on n'a fait aucune fouille. Ouais. Dans le sud algérien, on n'en a pas fait non plus.
Ouais. Blanche Guichot, donc on est dans un lieu quand même assez tabou là, hein. Il faut faire très attention à ce qu'on fait.
On est tabou, enfin c'est un lieu qui est tabou, mais en même temps je partais avec Pierre-Henri qui sait exactement travailler sur le terrain, Raphaël aussi. On a entendu 2 fois dans les extraits Yaroslav Lebedinsky qui est un historien extrêmement reconnu, qui se serait pas associé à cette aventure si on n'avait pas été sur une position tenable, respectueuse, éthique vis-à-vis de ce qu'on faisait.
Donc il y a beaucoup d'ingrédients qu'il faut considérer justement quand on part sur un terrain comme celui-là, parce qu'il y a à la fois de l'archéologie, il y a de l'histoire, il y a de l'exploration, il y a beaucoup d'humains, et puis il y a les croyances des peuples aussi. Et ça conditionne beaucoup la recherche que vous menez, Pierre Giscard.
Ah oui, c'est extraordinaire l'évolution de l'image de Gengis Khan dans ce pays. Et pendant des siècles, les Mongols, les empereurs mongols qui régnaient sur la Mongolie, n'en parlaient pas beaucoup de cet ancêtre mythique, plus ou moins. Et puis, quand les Soviétiques sont arrivés en 1925, à la suite du virage communiste, ils ont interdit absolument de se référer à Gengis Khan, considéré comme un despote, un criminel, etc. Et ce n'est qu'à partir de 1991, libération de la Mongolie du joug soviétique, que les Mongols sont revenus à Gengis Khan comme leur protecteur et presque leur dieu. Et à partir de ce moment-là, ils lui ont même fait des prières et ils sont allés en pèlerinage dans les lieux où il avait vécu. Transformation complète.
Donc on ne touche pas la montagne d'un dieu, tout simplement.
Absolument. Et il serait assez impensable, vu sa nouvelle image, de le rouvrir, ce qui, comme on dit dans le film, le rendrait humain à nouveau.
Oui, donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas publié encore sur votre travail là-bas ?
C'est l'une des raisons.
Oui. Vous pouvez nous en dire plus ?
Non.
Est-ce que vous allez publier un jour sur ce lieu ?
Posthume, comme je vous l'ai dit.
Oui, mais vous me le disiez hors antenne, donc les auditeurs ne l'ont pas entendu tout à l'heure. Et pour quelle raison vous allez le faire de façon posthume alors ?
Parce que je n'ai pas le temps.
D'accord, très bien. Bon, il y a des questions des auditeurs en attendant sur franceinter.fr. Il y a Thierry qui nous demande ceci. Il apparaîtrait qu'un pourcentage non négligeable de la population européenne posséderait des gènes justement de l'empereur Gengis Khan et de sa famille. Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet, Pierre-Henri Giscard ? Je crois bien que oui.
Absolument, absolument. Il y a de nombreuses publications par les paléogénéticiens du monde entier, américains en particulier, et qui ont révélé d'abord cette chose-là, donc c'est vrai. Deuxièmement, ont minimisé la rareté de ce phénomène en expliquant que la multiplication des parents que nous avons en remontant dans le temps fait que ça peut concerner tel ou tel d'entre nous aussi. Mmh. Mais on sait bien que les descendants directs de Gengis Khan qui ont pris le pouvoir partout, en particulier au Kazakhstan, en Perse, en Chine, sous le nom de Mongol, mais M-O-G-H-O-L, tous et leurs descendants ont été très prolifiques et ont pris évidemment comme concubine ou impératrice aussi des personnages locaux. Donc le résultat est là. Mais ce n'est pas rare.
Donc il y a eu une dissémination de gènes un petit peu partout.
Voilà, ce n'est pas une rareté.
Effectivement. Raphaël Hautefort, à partir de quand finalement avec Pierre-Henri Giscard, vous vous êtes dit que ça y est, vous aviez mis vraiment la main sur la sépulture de l'empereur Gengis Khan ? Qu'est-ce qui a fait que là, il y a eu vraiment une certitude sur la question ?
Dès la fameuse deuxième mission, seconde mission, donc encore sur le terrain, après l'analyse des premiers résultats du drone, pour observer sa géométrie. Cette fois-ci, on avait des éléments sous les yeux qui nous montraient une géométrie parfaite. Mm-hmm. Parfaite, en tout cas, au sens de la démesure de l'objet. On était clairement dans une pyramide ou
donc
quelque chose...
Donc la nature n'aurait pas pu faire ça.
Non. Ouais. Là, déjà, il y avait quelque chose d'assez évident. Donc moi, c'est là où j'ai eu l'intime conviction que, en fait, c'était bien là. Mmh. Et ensuite, de retour en France, les autres éléments, notamment sur l'aspect structurel du dôme, bon ben là, cette fois-ci, il y avait encore moins de doutes. Tout ça couplé à un faisceau de preuves indirectes, notamment le charnier découvert en bas. Je crois qu'on était sur la bonne voie.
Et ce dôme qui a la forme exacte d'un monument justement dédié à Gengis Khan à Ulaanbaatar, c'est ça ?
Alors oui, il est vrai que sur le parlement d'Ulaanbaatar, on peut observer sur la partie vitrée, donc sur la façade, une ombre qui a la forme exacte de ce dôme.
Eh bien, en tout cas, on verra toutes les étapes de ces expéditions et la découverte donc du tombeau de Gengis Khan ce soir sur France 5 dans Science Grand Format. Et c'est la tombe de Gengis Khan, le secret dévoilé, documentaire de Cédric Robion. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous en parler cet après-midi.
Merci.
Merci de l'invitation.